Moi, je suis André du Bouchmail au Cachin Oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Combatie au Cachanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Le projet de loi des finances pour l'année 2017 est en examen au Parlement après son dépôt au mois d'octobre dernier par le Premier ministre sortant Augustin Matata Ponyo. Ce budget est évalué à 500 milliards et 700 millions de francs congolais, soit 4,5 milliards de dollars américains. Selon le Premier ministre sortant, ce budget comparativement à celui de 2016 est en diminution de 15%, une diminution que Matata Ponyo justifie par la chute des cours des matières premières. Comment rehausser le budget de la République démocratique du Congo? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Pierrot et la Mégie est à la réalisation et Jean-Claude Tiala à la mise en onde de cette émission supervisée par Martin Sebujangui. Les coordonnées présentées par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne Michel Somoué, analyste économique. Michel, bonjour.
Bonjour, J.R.
Alors, plusieurs analystes ont donné de la voix pour chercher des éclairages par rapport à cette baisse. Ils ont en effet formulé autant de questions quant à ce. Nous soumettons d'ailleurs à ce débat deux de ces questions, notamment comment sommes-nous passés d'un budget de 9 milliards de dollars à 4,5 milliards américains et à combien se situent au jour d'aujourd'hui les réserves stratégiques du pays. Alors, la première question, à savoir comment sommes-nous passés d'un budget de 9 à 4,5 milliards. Le Premier ministre, nous l'avons tous suivi au Parlement, Matata Ponyo a évoqué la chute des cours des matières premières. Alors, s'agissant de la deuxième question, qui voudrait bien savoir à combien se situent les réserves stratégiques du pays, le Premier ministre sortant a avancé un chiffre de 2 milliards. Alors, comment vous réagissez, vous, analyste économique?
Hier, je voudrais, avant de m'attaquer à la question d'ordre statistique, commencer par donner une petite lumière sur la question budgétaire. Il est important que les gens comprennent que le budget est l'expression par le gouvernement de tout ce qu'il entend faire en faveur de la population. Parce que la seule raison, la principale raison d'être d'un gouvernement, c'est d'assurer le bien-être de sa population, de son peuple. Ça veut dire que le budget est fondamentalement l'expression de la politique socio-économique du gouvernement. Qu'on parle des investissements en termes d'infrastructures de base ou des écoles, des hôpitaux, etc., cela c'est pour contribuer simplement à l'amélioration du vécu quotidien de chaque citoyen. C'est à ça que cela sert. Donc c'est derrière les chiffres du budget que nous pouvons voir quelles sont les ambitions que s'assigne un gouvernement en faveur de chacun des individus. C'est pour ça que pour moi, je pense qu'il est toujours important de rapporter le budget à la population pour savoir combien un État est disposé à dépenser pour chacun de ses citoyens. Si je prends une telle statistique, vous allez voir que des pays comme la France sont disposés à dépenser 19 000 dollars par citoyen, dépenses de l'État. Mais chez nous, on est à peine, on n'atteint même pas 50 dollars par citoyen pour toute l'année, c'est un problème. Le deuxième aspect que j'aimerais mentionner, souligner avant d'aller trop loin dans les statistiques, c'est que le budget dépend du courant dépensé. C'est-à-dire qu'il y a une logique qui est en sous-bassement de l'élaboration des prévisions budgétaires. Il y a des considérations d'ordre idéologique. C'est comme ça que vous avez des gouvernements comme le nôtre qui vous présentent un budget à l'équilibre, tandis que les autres, comme aux États-Unis d'Amérique, vous présentent en permanence des budgets en déséquilibre, c'est-à-dire avec des déficits. Cela relève d'un courant de pensée. Le courant de pensée, c'est celui, pour les classiques qui veulent les budgets en équilibre, qui considèrent que il y a une main invisible et les aides sont suffisamment rationnelles pour qu'il n'y ait jamais de déséquilibre, la nature viendra par elle-même combler le vide. Ça, c'est un problème. Pour les autres, ils estiment que non, l'État a un rôle à jouer important parce que l'activité économique est caractérisée par ce qu'on appelle, parce qu'ils avaient appelé les esprits animaux. Donc, il faut nécessairement une intervention de l'État pour éviter qu'une crise survienne jusqu'à atteindre le point de dépression. Donc, nous sommes dans une logique idéologique, nous sommes dans une logique classique du budget fondé sur l'existence d'une main invisible, alors que nous avons un État que nous neutralisons. Un tel budget signifie que le gouvernement, notre gouvernement, considère notre État comme une entité facultative, qui n'a pas sa raison d'être, qui n'a pas un rôle majeur à jouer dans l'économie. Et ça, c'est un problème. Comme je voulais le constater comme deuxième élément. Enfin, je voudrais maintenant en venir aux chiffres avancés par le gouvernement de 4 milliards et demi. D'abord, nous ne sommes pas, ce n'est pas une réduction de 15%, parce qu'on compare les prévisions avec les prévisions. Nous avons une réduction qui dépasse les 40%, on est aux alentours de 50% de réduction des prévisions. Que le gouvernement dise qu'une telle chute ne peut être expliquée que par la baisse de nos cours de matières premières sur le marché mondial, je me dis là, il y a un problème. Un sérieux problème. Et c'est d'ailleurs là qu'il y a le troisième fondamental de l'économie du budget dont je voulais évoquer, la structure de l'économie d'un pays. Nous, au Congo, nous nous sommes précipités d'avoir une indépendance politique. Encore faut-il vérifier si elle existe. Et au détriment, au lieu de nous approprier d'abord notre économie, au lieu d'inverser les circuits économiques, au lieu de bâtir une économie nationale, nous n'avons pas d'économie nationale. Ça nous pose un problème. Nous avons un truc qu'on appelle l'économie extravertie, mais en réalité, c'est une économie...
Michel, revenons un peu à ces budgets tels que présentés par le Premier ministre sortant. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les chiffres? Quels sont les gros postes constitueront donc les dépenses de ces budgets aujourd'hui? Parce que vous avez dit tout repose sur la politique sociale. Est-ce que ce budget tient compte de cela? Parce que selon les informations que nous avons et par rapport à la lecture que nous avons pu effectuer au niveau de ces budgets, on s'est rendu compte que tout est élaboré par rapport à l'accord du 18 octobre 2016, c'est-à-dire avec comme priorité des dépenses les élections, mais quelquefois aussi la rubrique sociale avec quelques ajustements. Est-ce que vous avez eu la même impression comme nous?
Non, JR, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai commencé par donner les fondamentaux. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un chiffre, il faut que le chiffre soit pertinent. Il faut avoir un chiffre, il faut que le chiffre ne doit pas être creux, ne doit pas être une abstraction. Il ne faut pas dire on comble les vides. Le budget, ce n'est pas une somme de forfaits, des imputations forfaitaires, pour qu'on dise on va dépenser 1,5 milliard, 1,8 milliard pour les élections, 1,2 milliard pour les élections, on va dépenser autant pour la rémunération des agents. Encore faut-il que cela soit pertinent, que cela rencontre l'objet de la dépense elle-même, c'est-à-dire que cela soit suffisant pour que la dépense faite se justifie. Sinon, ça devient de l'émiettement, ça devient du saupoudrage. C'est pour ça que j'insistais d'abord sur les fondamentaux du budget. Quand vous chutez de 9 milliards à 4 milliards et demi, il y a un problème grave. On ne peut pas, quand on a été à 9 milliards, on n'a pas pu dégager 1,2 milliard pour organiser les élections, on ne le fera pas avec 4 milliards et demi. Avec 9 milliards, on n'a pas pu donner une rémunération conséquente aux agents et fonctionnaires de l'État, on n'a pas pu donner une rémunération conséquente à notre armée, on n'a pas pu assurer une défense efficace de notre territoire national, on n'a pas pu assurer une défense significative des hommes et de leurs biens. Ça signifie qu'avec 4 milliards et demi, tout cela va être divisé par deux.
Alors, avant d'ouvrir le standard, à voir vos propos, c'est comme si ces ajustements, quoique le budget a été revu à la baisse, mais les quelques ajustements, initiés par rapport à certains postes, par rapport à certaines rubriques, n'étant pas soutenus, c'est là où on n'aura pas un impact positif sur le vécu quotidien.
Parce que ce sont des imputations purement forfaitaires. Il n'y a pas... Laissez-moi vous donner un petit exemple pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Je crois que chaque gouvernement intelligent, je parle de l'intelligence économique, pas en termes d'une insulte, hein, chaque gouvernement intelligent se pose la question de savoir combien faut-il que je dépense pour assurer la protection d'un kilomètre carré de mon territoire national. Combien ça me coûte en termes d'hommes en uniforme, en termes d'armes et en termes de munitions qu'il faudrait donner à un militaire, aux militaires affectés à la protection de 1 km² pour que cela soit effectif et qu'ils assurent effectivement une protection telle qu'elle est attendue. C'est ça le calcul que l'on fait. Le calcul que l'on fait de savoir combien faut-il que je dépense en termes de salaire pour un fonctionnaire qui puisse lui garantir l'accès aux soins médicaux viables, qui puisse lui assurer la possibilité de payer sa facture d'eau et d'électricité sans problème, qui puisse lui assurer les conditions d'existence minimum d'un être humain. C'est ça les questions que l'on se pose. Le salaire ne doit pas être un forfait. La dépense militaire ne doit pas être un forfait. Cela procède d'un calcul et on établit ce qu'on appelle des moyens et on peut avoir des budgets. Et si tel avait été le cas hier, un pays comme le Congo ne pouvait jamais avoir un budget de 100 milliards de dollars. Si tel avait été le cas, un pays comme le Congo mériterait d'avoir un budget au moins égal à 300 milliards de dollars. Ça, c'est pour faire des comparaisons pures et simples. Même avec des pays qui nous sont voisins ici à côté. Ce sont des choses qui sont simples, qui sont au calcul des gens, mais là, à la place, on nous habitue à des imputations forfaitaires, alors le budget devient un truc, je veux dire un truc pour rien, une formalité statistique que le gouvernement s'assigne, alors on sent à ce moment-là que ce gouvernement ne possède pas le leadership nécessaire pour conduire le pays à un bien-être collectif.
Merci beaucoup, Michel Sommeau. Nous vous gardons en ligne le temps pour nous de rappeler à tous ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à ces débats autour du budget déposé au niveau du Parlement par le Premier ministre sortant Matata Ponyo. Un budget qui tourne autour de 4 milliards de dollars américains comparativement à celui de 2016 qui tournait autour de 9 milliards. Le débat est lancé, vous avez droit à la parole, donc n'hésitez pas de participer à cette émission.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons, après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs.
Alors, je l'ai dit tantôt, plusieurs analystes ont donné de la voix pour chercher des éclairages par rapport à cette baisse. Ils ont en effet formulé autant de questions quant à ce, et nous soumettons à ce débat deux de ces questions, notamment comment nous sommes passés d'un budget de 9 milliards de dollars américains à 4 milliards et demi de dollars, et à combien se situent au jour d'aujourd'hui les réserves stratégiques du pays. Alors, comment réagissez-vous, Jean-Claude, vous êtes à Kindu et Papy à Kinshasa. Alors Jean-Claude, vous êtes à Kindu, vous êtes avec nous. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour Jean-Romain Ngembo et bonjour aussi à l'invité, le doctorat et Michel Sommeau, et bonjour aussi à tous les liens d'auditeurs internes de Radio Okapi.
Alors, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Jean-Romain, laissez-moi d'abord vous dire que je suis malheureux. Je suis aussi hébété d'entendre que on a réussi à la baisse le budget, c'est-à-dire quitter de 9 milliards à 4 milliards. Je ne sais pas si nous sommes dans quel monde, Jean-Robert. Je suis malheureux parce que nous sommes au jour d'aujourd'hui, sinon dans le contexte actuel des choses, dirigez pas, s'il vous plaît, et permettez-moi, je dirais que nous sommes en train de voir, comme je l'ai toujours dit, que c'est parce que tout simplement nous évoluons dans un environnement faisandé où le cachet roi et madame corruption est reine. Aujourd'hui, en RDC, nous sommes en train de vivre en ce qu'on appelle, nous vivons dans une exception absolue. Parce qu'on ne pourra pas au jour d'aujourd'hui, sinon dans le contexte actuel des choses, comprendre, Jean-Romain, avec tous les atouts, avec tout ce que nous avons comme potentialité dans notre pays, et puis on arrive à dire sans foi aux yeux, devant tout le monde que non, on a connu des problèmes. Ce n'est pas ces problèmes, on a connu juste pour le budget, alors que nous voyons au même mois, au courant de cette même année, par exemple ici chez nous, où on a vu juste un ministre qui n'avait ni même une parcelle de 10 mètres carrés aujourd'hui, après 3 mois, vous voyez un ministre qui construit un building.
Oui, Jean-Claude, si nous revenons à la thématique et les raisons avancées pour soutenir les dépôts de ce budget au niveau du Parlement, je l'ai dit tantôt, il y a 2 questions qui se dégagent. Pourquoi cette baisse et à combien aujourd'hui se situent les réserves stratégiques de la RDC? À la première question, le Premier ministre a répondu cette diminution serait due à la chute des cours des matières premières. Mais quant aux réserves stratégiques de la République, cela se situe autour des 2 milliards. Quel est votre commentaire par rapport à ces chiffres et par rapport à cette réduction?
Bien, Romain, ne déplaçons pas les débats. Soyons
sérieux. Le débat, c'est celui-là, parce que c'est moi qui dirige les débats. C'est le débat, c'est celui-là.
Bien sûr, bien entendu.
Oui.
Bien entendu. Moi, je vais paraphraser ici Michel Somoué, qui, heureusement, qui est avec vous au téléphone, qui nous a toujours dit que nous sommes dans un système d'air et là libre, dans un poulailler libre. Déjà, Romain. Moi, je sais que je sais qu'on est en deux.
Dommage. Jean-Claude n'est plus en ligne. Je crois que bon, il voulait développer quand même les raisons pour lui qui font qu'aujourd'hui on puisse se retrouver réellement dans. Mais c'est que nous avons retenu que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Donc nous sommes dans une exception absolue. Alors papy, qu'est-ce que c'est, papy? Vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Gilles. Bonjour aussi à les invités et à tous les.
Est-ce que vous partagez l'avis de Jean-Claude qui parle d'une exception absolue? Nous sommes vraiment dans une exception absolue.
Bon, cette exception, je ne sais pas, elle est soulevée par quelques juridiques. Monsieur Gilles, ça, ce n'est que la conséquence de la mauvaise gouvernance, parce que, à mon avis, je crois que le problème est éminemment politique, parce que lorsqu'il y a volonté politique, il y aura aussi amélioration de toutes ces conditions-là. Donc, par rapport à la thématique du jour, M. Vier, moi, j'estime que, premièrement, ce qui est à la base de cette baisse, c'est manque de la volonté politique. Parce que la raison avancée par le Premier ministre, c'est une raison qui n'a aucun fondement, parce que si cela était vrai, on allait maintenir le montant ou le budget que nous avions au lieu de le faire baisser jusqu'à ce niveau-là.
Est-ce que vous avez une idée des éléments qui pouvaient faire l'exception par rapport à vos propos qui viennent quand même contredire ceux qui soutiennent ces budgets? Est-ce que vous avez une idée sur des paramètres ou des facteurs qui pouvaient, d'une manière ou d'une autre, soutenir le budget qui était autour de 9 milliards?
Oui, soutenir, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord faire une étude comparative, M. Vier. Nos voisins, entre autres Angola et Congo-Brazzaville, leur budget est aussi financé ou soutenu par les richesses minières ou les richesses naturelles. Bien qu'il y ait une baisse au niveau international, dont le prix de ces matières premières a été réduit à la baisse, mais ces pays n'ont pas connu le problème que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose que le manque de CGR de revoir les choses de façon positive sur le plan politique. Pourquoi je dis ça, M. Gilles? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est à la base de tout cela, c'est l'impunité, tout simplement. Il n'y a pas de séparation du pouvoir. Il y a toujours foulement des recettes. Tout ce qui peut entrer dans la tête de l'État est confondu et entré dans les caisses des individus.
Voilà, merci beaucoup. Donc, vous soutenez l'idée, la question sur l'impunité, mais disons que, parce que vous avez parlé de la chute des matières premières, et vous avez donné l'exemple de l'Angola et du Congo au Brazzaville, on sait tout de même que ces deux pays, en tout cas leur budget repose sur le pétrole, et parmi les matières qui ont été fortement touchées, on sait que c'est le pétrole, et pourquoi les deux pays n'ont pas connu le même problème, c'est la question que vous soulevez. Et là, ça nous renvoie par rapport à votre intervention de tout à l'heure. Vous soulevez la question de la gouvernance, hein, la capacité de mobiliser des recettes qui pose problème à RDC. Est-ce que Soumaïli partage cet avis? Soumaïli, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Merci, bonjour, M. Gilles. Moi, je ne partage pas cet avis. Moi, je vois seulement le manque de la volonté qui est dans le chef de nos dirigeants. Dans le sens que le pays comme le Congo a tout, c'est rien. dans les parcs. Même les sols congolais, si vous semez les histoires, c'est une chose bête. Ça pousse, ça donne directement. Et maintenant, je serais vraiment étudié de comprendre un tel argument poussé par le ministre de la Justice. C'est un fait que je donne beaucoup de respect, mais ça lui sera vraiment un rabais de la consultation que nous donnions dans l'État. Parce qu'un économiste de formation ne peut pas vraiment donner un tel budget. Parce que notre économie d'abord congolaise est rongée par un mois de l'inflation ce jour. Le moment que là, c'est ce montant là, pour le montant du budget, l'inflation a déjà rongé notre économie. Aujourd'hui, au choc ici au Katanga, un seul de farine revient à 3 000 francs. Donc, est-ce que ce budget la place est pas assez mal pour que notre économie soit vraiment dégressée? Le chômeur, nous sommes pas condamnés, nous qui sommes chômeurs.
Oui, Soumaïli, quand nous observons le budget tel que présenté cette année en 2017, on se rend compte que malgré qu'il y a baisse de ce budget, il y a quand même des ajustements importants qui ont été faits dans certaines rubriques, notamment dans la politique sociale, de pouvoir améliorer les conditions de vie des citoyens, de la population que nous sommes. Donc à ce niveau, c'est vrai que l'objectif premier, ce sera d'organiser les élections d'ici à 2018, mais aussi d'améliorer tant soit peu les conditions sociales telles que nous l'avons vu, et nous avons dit 1 milliard pour les élections, 1 milliard également pour améliorer les conditions de vie. Je crois que ça pourrait quand même constituer une innovation par rapport à, malgré qu'il y a baisse, il y a quelques avancées.
Non, monsieur, je vais vous dire ceci. J'espère, j'ai suivi la radio KPC il y a 2 jours, que les aliments de première nécessité à Kinshasa à Lumbashi sont à la hausse. C'est une situation proche. La population ne sait pas comment vivre. Comment est-ce que vous allez ajuster le social des gens, disant que tout d'abord le problème de manger nous coûte le jet de la tête. Croyez-vous que ce gouvernement pourrait être en mesure de pouvoir ajuster de telles histoires avec ce montant-là? L'inflation, les unités que nous consommons dans le téléphone, revient à 1400 francs. Vous voyez, oui. Est-ce que ce montant-là pourra être en mesure de pouvoir ajuster la question économique? C'est ce que j'ai dit, que c'est un gouvernement irresponsable.
Voilà,
je n'ai pas de droit à votre problème. Il milite dans ce qu'ils sont en train de demander.
Voilà, je comprends un peu votre souci, je comprends également votre colère, mais je crois que les termes à utiliser, irresponsable, c'est quand même trop fort, Maïli. Le mieux, peut-être, comme vous l'avez commencé, en disant, par exemple, qu'il y a cette, vous avez observé, vous, un manque de bonne volonté, mais nous vous avons présenté le tableau tel que présenté au niveau de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, avec quelques ajustements pour améliorer les conditions de vie des citoyens, et aussi avec comme priorité d'organiser les élections. Je crois qu'à ce moment-là, il y a quand même une responsabilité, certes, comme vous l'avez dit, mais nous ne pouvons pas précipitamment parler de l'irresponsabilité. Merci beaucoup. Alors, Patrice, vous êtes à Béni, bonjour.
Bonjour, JR, bonjour à Somwe, je salue aussi tous les auditeurs qui nous suivent à ce temps, ce Kasunga Patrice, bien sûr. Et mon regret est que donc, ce que nous, on nous a appris à l'université, ces professeurs qui nous apprennent à l'université, ils ne mettent pas en pratique ce que eux nous apprennent. C'est-à-dire, le reçu financier de l'État, où sont-ils? Quel faut cet argent? Et pourquoi ne pas augmenter d'autres régimes financiers pour accroître nos budgets? C'est anormal. On nous apprend la théorie et que quand ils entrent sur la scène, c'est la pratique de vie indirecte. Du direct qu'ils nous ont appris à l'université.
Oui, quand vous plaidez pour... Oui,
quand vous plaidez pour... Alors, nous aussi, on va prendre...
Patrice, quand vous... Oui, Patrice, quand vous plaidez...
On peut aussi entrer à l'université. Mais c'est mal, c'est marrant. Quand ils apprennent que non, c'est... le premier ministre tel, professeur tel, et que la pratique devient autre. Voilà que nous sommes en train de ruiner l'éducation de notre pays.
Alors Patrice, quand vous proposez.
Nous ne parvenons même pas à accroître notre budget national.
Alors, quand normal. Oui, quand vous proposez.
Nous sommes en 17 000. Nous sommes encore en train de descendre, on est d'accroître, c'est ce que nous sommes en train de vivre au Congo, c'est ne pas ce que les Congolais
devaient vivre.
Alors,
et ceux qui sont partis ruinés ce budget, ce sont ceux qui nous apprennent à l'université. C'est normal.
Oui, si je comprends bien, Patrice.
C'est un vrai total. Je crois bien, pour épauler notre gouvernement, il serait important de prendre l'autoprise en charge. Vous voyez, il y a de vieilles, ils ont 80, ils ont 60, mais aucun retraite. Ce n'est pas normal ce que nous vivons. Or, le chômage continue d'accroître au pays. Pendant ce temps, le budget, comment le budget sera toujours, le budget sera bien sûr revu à la hausse. C'est normal. Donc, si on pouvait encore rajeunir, je crois bien, le secteur économique, ça nous apprendra de le bien à accroître aussi nos budgets. C'est là où je suis. Donc, à partir de ce que nous sommes en train de vivre, ça nous donne directement une leçon pour que demain, nous ne parvenons plus encore à vivre ce que nous vivons aujourd'hui.
Voilà, merci beaucoup Patrice. Je crois que vous avez plaidé pour la multiplicité des régies financières. Bon, je crois qu'il y a un principe en droit fiscal qui dit trop de taxes trop d'impôts tue l'impôt. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui en imposant trop et puis ça risque de décourager un peu cette culture fiscale et aussi causer du tort au gouvernement qui doit normalement avoir cette capacité de mobiliser leurs recettes. Et le fait d'imposer, d'avoir une forte imposition, ça risque de décourager les gens. Merci beaucoup. Alors, Pierrot, vous êtes à Ouvira. Bonjour, Pierrot.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
De ma part, je suis complètement ému de la situation de notre Premier ministre. Sortant. Car réduire le budget, ce n'est pas une chose nécessaire. Il serait mieux d'abord d'aller de demander à Mata Sampoli de venir devant ce budget, car voir le budget qui était déjà à 9 milliards, aujourd'hui à 4,5 milliards, ce n'est pas du tout normal.
Voilà, on a des petits soucis, Pierrot. Oui, Pierrot, je crois que vous pouvez commencer d'abord par éteindre votre poste récepteur. Comme ça, on peut bien communiquer par le téléphone, hein, et ça nous permettrait quand même d'avoir une communication très fluide. Hein, Pierrot ?
Merci, le propre nom.
Voilà, allez-y.
Alors, j'étais en disant que Mathias Antonio devrait d'abord défendre ce budget qu'il a déposé, ce projet de budget qu'il a déposé au Parlement. Car on ne sait pas si et aussi est-ce qu'il a réduit la base imposable, il a réduit toutes les sources de revenus, de recettes, dire qu'il a réduit le budget à 4 milliards tout au plus, ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est ce qu'on appelle soupirage des recettes publiques ou saigner à plat les recettes du trésor public. Dire qu'il a réduit ce budget à cela. Malgré que nous avons l'inflation aujourd'hui, l'inflation n'était pas réduite et on sait très bien que. Les recettes qu'on perçoit, on les perçoit par un système de frais fiscal.
Mais sur quel élément basez-vous pour défendre que les chocs exogènes ne peuvent pas avoir un impact sur l'économie nationale congolaise, qui est du reste extravertie? Parce que c'est systématique, le fait qu'il y aura un choc exogène, cela ne pourrait qu'avoir comme conséquence l'impact sur l'économie nationale.
Non, monsieur, je suis un économiste tout fait. Vous devez savoir que nous avons des recettes courantes et nous avons des recettes extérieures. En provenance de l'extérieur, malgré que nous avons des ressources minières, que nous exportons des cours, des matières premières, que nous exportons qui ont chuté. Ça ne peut pas empêcher et réduire le budget à ce niveau. Donc, si ça devait réduire, à 2% ou 3%, pas à plus de 15 tout au plus. Ce n'est pas normal, il faudrait que Mata Sampoli revienne sur sa décision et aussi on amende convenablement ce budget. On sait très bien qu'il y a l'inflation, mais l'inflation ne peut pas réduire le budget jusqu'à ce niveau.
Merci beaucoup, Pierrot. Pour vous, les chocs exogènes ne pouvaient pas avoir un impact de plus de 15%, comme l'a présenté le Premier ministre sortant au niveau du Parlement, mais vous acceptez quand même que ces chocs pouvaient avoir une conséquence, mais pas en tout cas autour de 15, mais plutôt autour de 1 à 2%. Merci beaucoup. Est-ce que Félicien partage cet avis? Félicien, vous êtes avec nous?
Bonjour à notre invité, bonjour à toutes les invités de Radio Canada. Moi, je me pose la question, pourquoi ce paradoxe? Les dirigeants de notre pays nous disent que les Occidentaux et nos voisins nous font la guerre à cause des chefs du sol et du sous-sol que regorge notre pays, notre beau pays, dirais-je. Mais comment expliquer que ceux qui viennent nous voler vivent mieux que nous-mêmes? Et comment expliquer que nous ayons toujours un budget insignifiant des poubelles de l'UEF avec toutes les bénédictions que Dieu a déversées dans ce pays? Pourquoi nos dirigeants ferment-ils les oreilles et les yeux sur tous les rapports d'enquête relatifs plutôt au pillage des ressources minières et relatifs à la corruption, le coulage des recettes, et la manifestation financière des régies financières, etc., etc.? Comment on peut expliquer que les individus qui sont au pouvoir dans ce pays soient plus riches que l'État lui-même? Et pourquoi tant d'impunité dans la gestion de la République?
Alors, Félicien, quel regard portez-vous sur ce budget 2017?
Mais je pose toutes ces questions.
Que voilà. Est-ce que ça peut avoir un impact sur
si la on pouvait vraiment gérer la République, si on pouvait vraiment penser à l'intérêt supérieur de la nation, si on pouvait gérer dans l'intérêt du peuple, on ne peut pas avoir ce budget-là, ce qu'ils ont parlé avant moi, l'ont dit. Pourquoi il y a tant de méchanceté?
Alors, qu'est-ce qu'on dit?
Pourquoi on gère avec tant d'égoïsme, tant de méchanceté?
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faudrait-il attendre, les Féliciens, faudrait-il attendre que le gouvernement, qui, en fait, que tout le monde attend, puisse présenter un programme au niveau du Parlement, ou faut-il accepter le budget qui vient d'être présenté par l'ancien Premier ministre au nom du principe de continuité de l'État?
Non, mais il n'y a pas la continuité de l'État dans la méchanceté, dans l'égoïsme. Il y a la continuité de l'État dans la gestion, la bonne gestion de la République. On ne sait pas parce qu'on a géré mal, on doit continuer à gérer mal. On doit changer les fusées d'épaule, on doit commencer à penser intérêt de la République, intérêt du peuple. Puisque nous avons les moyens, ou si nous voyons comment les gens s'enrichissent, nous sommes de même dans le Panama Papers de cité là-bas. Vraiment, on n'est pas en mesure d'avoir un budget qui peut donner du sourire au peuple.
Merci
vraiment,
beaucoup.
On n'est pas en mesure de donner les meilleurs, d'améliorer les conditions de vie de la population.
Merci beaucoup. Avant de retrouver notre invité, Michel Somoy, qui s'impatiente déjà, d'ailleurs, on va prendre Maître Laurent. Maître Laurent, juste une question que venait d'évoquer tout à l'heure Patrice de Béni. Il a parlé des chocs exogènes. Pour lui, c'est vrai, le Premier ministre sortant l'a évoqué, et que cela a eu un impact autour de 15% dans notre budget. Est-ce que vous pensez comme Patrice qui soutient que le choc exogène, nous l'acceptons, mais cela pouvait avoir juste un impact moins significatif, autour de 2%. Est-ce que vous partagez cet avis?
Non, moi je m'excuse, je suis à Calémy, je ne suis pas à Béni.
Oui, à Calémy, pardon, à Calémy.
Oui, moi je vois que le budget qu'on a proposé pour notre État là, c'est une injure vis-à-vis des Congolais. Et là, nous nous étonnons davantage comment le Premier ministre sortant va focaliser le budget uniquement et rien que pour un tel produit d'abord qui n'est pas stable dans le marché mondial le minerai. Pendant que d'abord ce produit n'est pas stable dans le marché mondial. Or, il y a autant de secteurs qui peuvent faire à ce que notre budget soit quand même relevé par rapport au budget que lui nous a proposé. C'est parmi tant d'autres. Il y a par exemple le domaine de l'agriculture, la canalisation d'abord des ressources que nous avons, telles que la douane et autres. Bon, nous constatons qu'il y a aussi un autre problème de ministres. Ceux-là qui sont ministres, ce sont les mêmes gens qui supportent encore d'autres entreprises. Maintenant, dans ces cas, il est là exempté aux taxes. Dans ce cas, on ne sait pas si vraiment nous allons bien aller. Ce que nous appelons d'autres, c'est le fait que
Merci beaucoup, Maître Laurent. 081-893-15 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Au capidance, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop,
rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs. Tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capidan, les mercredis jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Parole aux auditeurs, J.R.N. Game.
Voilà, il faut qu'on remercie de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce magazine d'échanges citoyens. Michel Somoué, vous êtes analyste économique et notre invité de ce jour. Alors, vous avez suivi les uns et les autres une question qui était très, très, très pertinente, évoquée par Patrice Debeni, en évoquant les chocs exogènes qui ne pouvaient pas avoir un impact autour des 15%, tel que l'a souligné le Premier ministre sortant lorsqu'il défendait ce budget au niveau du Parlement. Lui, il a estimé plutôt que ces chocs exogènes seraient bien parce que notre économie a été, étant donné qu'elle est extravertie, ne pouvait avoir un impact sur le budget autour de 2%. Est-ce que cela tient la route?
Ce qui tient la route, ce n'est pas le pourcentage. Ce qui tient la route, c'est le raisonnement que M. Patrice a fait en vous disant que quand bien même on peut enregistrer une baisse des cours de nos matières premières sur le marché mondial, il s'avère quand même que le gouvernement a exagéré dans sa logique de révision à la baisse des prévisions budgétaires. Passer de 9 milliards où nous étions déjà pour nous ramener à 4 milliards et demi, simplement parce que quelques matières premières exportées par le Congo, et d'ailleurs par les multinationales qui exploitent nos ressources au Congo, c'est parce que ces matières ont connu une baisse, le budget national doit être réduit à diminuer de la moitié de ses prévisions antérieures. C'est pas normal. Je crois que là, c'est une réaction disproportionnée. Mais en somme, JR, si vous avez bien suivi tous les 7 intervenants qui viennent de passer à l'instant, ils corroborent les 3 préalables que je vous ai évoqués au-dessus en vous disant, primo, le budget doit être l'expression quantifiée du programme global du gouvernement, lequel programme doit être essentiellement focalisé sur le bien-être de la population. Première chose. Deuxième chose, je vous ai dit que le budget doit c'était une lecture du courant de pensée, du courant idéologique auquel on appartient. Nous appartenons malheureusement à un mauvais courant de pensée, dépassé, démodé, décousu. Troisième chose, et là vous entendez, parce qu'a dit Maître Laura à la fin, vous parlez, dit, mais ça ne devrait pas être le cas parce que les matières premières ont baissé et du coup tous les budgets baissent, toute la nation s'arrête. Mais il a parlé de la diversification économique. Mais en fait, c'est ce que je vous ai dit. Nous avons manqué de nous approprier notre économie. En somme, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en un mot que ce que le gouvernement nous a présenté, ça ne s'appelle pas en économie un budget. C'est pas ça qu'on appelle le budget. Parce que ça ne reflète pas un programme de bien-être national. Ça ne reflète pas un courant de pensée idéologique qui engage l'État dans la régulation de l'économie parce que nous sommes une économie en crise. Ça engage, ce n'est pas un budget qui reflète l'appropriation de notre propre économie. Cela veut dire que ce n'est pas un budget, c'est un calcul forfaitaire, des imputations forfaitaires qui vont aboutir au saupoudrage des petites ressources qui existent encore, c'est-à-dire au gaspillage pur et simple. Au terme de l'année, on n'aura résolu aucun problème, on va prolonger les choses. Et c'est pour ça que, quelque part, sans vouloir faire un procès d'intention, je rejoins par exemple Soumaïli qui dit il y a un problème de volonté politique. Comment peut-on comprendre qu'un gouvernement qui sort se précipite à déposer un budget pendant qu'il est en train de sortir? Il le sait très bien. Il dépose un budget de 4 milliards et demi. Est-ce que ce n'est pas un piège que l'on tend à celui qui arrive en même temps que la CNI revoit ses prévisions de dépenses à la hausse? Pas de 1 milliard 2 à 1 milliard 800 millions. C'est-à-dire presque la moitié du budget que ma tête a dépose. Est-ce que ce n'est pas un calcul politicien de mauvaise foi quelque part? Ça, c'est une question que je me pose. Mais enfin, c'est d'ailleurs quelqu'un qui l'a dit, papy a dit qu'il y a eu une mauvaise foi, c'est le reflet d'une mauvaise gouvernance. Mais la mauvaise gouvernance, c'est ce que nous vivons tous les jours dans ce pays. Bref, je voulais vous dire, JR, et j'insiste là-dessus en vous disant, le problème congolais est que nous ne nous sommes pas encore approprié notre économie pour que nous puissions bâtir une économie nationale sur base de laquelle nous pourrions envisager des réformes intérieures sérieuses qui qui vont permettre aux régies financières, parce que parce que parler de la multiplication des régies financières, on doit même réagir en disant et trop d'impôts tue l'impôt, ce n'est même pas un problème de multiplier les régies financières, c'est d'abord un problème d'élargir la base fiscale. Élargir la base fiscale signifie que nous sommes parvenus effectivement à nous approprier notre économie pour amorcer la diversification économique dont a parlé Maître Laurent vers la fin ici. Bref, moi je pense que ce qui nous manque dans ce pays, c'est la notion, c'est le concept du budget, le concept de l'État, le concept du gouvernement. J'ai l'impression que nous avons en face de nous des institutions théâtrales qui sont passées juste pour combler le vide, pour jouer le rôle, jouer la fonction, alors qu'en réalité, il n'en est pas dans une pièce de théâtre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'au vu de ce que nous avons comme ressources, et là encore, je rejoins Félicien qui a dit, mais on nous dit tout le temps que nous sommes en train de subir la guerre parce qu'il y a des gens qui convoitent nos ressources naturelles, mais comment expliquer que nous vivons moins bien que ceux qui nous convoitent? Mais voilà. Il a parfaitement raison de formuler cette inquiétude. Nous, chaque jour, nous revendiquons la souveraineté nationale, mais nous sommes incapables d'assurer l'exploitation de nos propres ressources par nous-mêmes. Et nous laissons comme ça s'installer dans ce pays une économie totalement étrangère, une classe moyenne totalement étrangère, un secteur minier complètement contrôlé par des étrangers, un secteur bancaire complètement contrôlé par des étrangers, et une télécommunication totalement prémettre d'étrangers, alors qu'est-ce qui est national?
Voilà.
Et ce qui est national, c'est le budget, mais un budget qui repose maintenant sur quelles ressources? C'est là le problème.
Oui, mais tel sommet, nous vous gardons encore en ligne, Omar nous a rejoint, et puis Maître Sonville de Lubumbashi. Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Omar, vous êtes avec nous? Omar?
Oui, je suis là, j'y arrive.
Voilà, oui, Omar,
je suis en ligne.
Voilà, nous avons entamé le dernier quart d'heure de notre émission. Ok, alors on a entamé le dernier quart d'heure de notre émission. La grande question, vous venez de suivre notre invité tout à l'heure qui a évoqué la question de la conception qu'a aujourd'hui chacun de nous sur le budget de l'État, la conception sur l'État lui-même et la question également de la fiscalité. Est-ce que vous partagez cet avis et que si jamais tout le monde avait une compréhension générale de ces concepts budget, l'État et fiscalité, je crois qu'on aurait résolu une grande part de difficultés qu'on a autour de l'élaboration, par exemple, de nos budgets ou de la mobilisation de nos recettes.
Merci beaucoup, très cher JR, du verbe que vous m'accordez. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'admiration pour M. Michel Chaumet, que j'admire pertinemment bien. Je pense que ma position, ma réaction par rapport à cette intervention par réunion, c'est précisément, je suis d'accord avec lui, parce qu'il pense que l'une des causes qui fait qu'on a un budget en conséquence, c'est la mauvaise gouvernance, je suis d'accord. Je suis également d'accord lorsqu'il parle de l'incapacité de prévenir les dangers économiques, car un bon économiste n'analyse pas, mais prévoit le risque qui peut venir. Mais là, je ne suis pas d'accord avec M. Lot qui fait de l'irréalisme économique. Vous savez, M. Michel Chaumet est un grand scientifique, mais il a aussi été un des gouvernants de ce pays au niveau de la Banque centrale. Je ne pense pas que lors de son gouvernement, il n'y avait pas de poids économique. La critique est pesée, l'art est difficile, comme on le dit. Hein. Je suis d'accord avec lui, mais non, je ne suis pas d'accord. Il a parlé de trois préalables. Hein. Premièrement, le budget doit être conforme au programme de soins de la population. Je suis bien et bien d'accord. Il a aussi dit que le budget doit avoir un courant économique. Lorsque M. Michel Chaumet ne veut pas reconnaître que les influences internationales vont plus accepter, c'est à même qu'il dit que nous avons une économie fragile. Je suis d'accord lorsqu'il dit que nous devons revoir notre aspect économique au niveau national. Mais il faut être conscient que ce que nous vivons également aujourd'hui a été l'œuvre de l'économie traversée que nous avons adoptée. Avant de critiquer, avant d'attaquer, il faut être réaliste. C'est comme j'ai toujours dit, lorsque la maison brûle, il ne faut pas seulement ce qui l'a brûlé, il faut trouver des solutions. Deuxièmement, il dit que les budgets ne doivent pas être stoppés par rapport aux causes ou aux systèmes internationaux. Je vous donne, monsieur, le cas de l'Angleterre aujourd'hui qui a pu quitter l'Union européenne. Je suis introduit des informations. Si vous parcourez toutes les émissions économiques mondiales, CNN, France 24 et autres, on vous dira que l'Europe a été perdue. Allez-vous me dire que c'est l'Angleterre qui détient l'économie européenne? C'est pour dire qu'au niveau économique, il n'y a pas que la scène scientifique, il y a aussi la scène internationale.
Là où je suis d'accord avec vous, c'est la mauvaise gouvernance, mais c'est aussi conscient qu'on actuellement.
Oui, mais Omar, vous avez suivi Patrice qui parlait tout à l'heure de ces chocs exogènes en insistant sur l'impact que cela devait avoir sur notre économie, sur notre budget, mais pas, selon lui, autour de 15%, comme l'a dit le Premier ministre sortant. Mais lui, il a pensé plutôt que ces chocs pouvaient avoir un impact moins significatif, autour peut-être de 2%, parce qu'au regard de l'Angola ou encore du Congo, Brazza, qui en fait leur économie repose sur le pétrole, on n'a pas senti une diminution ou une variation à la baisse très significative dans leur budget.
Merci, je suis d'accord avec M. Stone, hein. Mais il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que l'Angola, un pays qui a vécu trop longtemps dans la guerre, qu'est-ce qui fait que le Brésil, l'Afrique du Sud, qui était avant nous, et nous, pardon, derrière nous, sont aujourd'hui avant nous? Il y a des problèmes qui doivent être discutés. Il y a deux personnes qui tuent l'économie congolaise, c'est l'élite congolaise et l'homme politique congolais. L'homme politique qui ne voit que son intérêt et qui prie par la mauvaise gouvernance, et l'élite congolaise qui prie par des théories et l'origine pour pouvoir ne sait pas ce qu'il a appris. Moi, je pense que cher JR, on ne peut pas comparer les réalités du pays à un autre parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Le vrai problème du Congolais, c'est que d'abord, nous avons adopté une politique économique qui n'est pas appropriée à nos réalités économiques. Avant de condamner, il faut commencer par reconnaître là. Il n'y a pas de l'homme politique qui est prédateur de ce problème. Il y a aussi une élite congolaise qui a déjà été plusieurs fois. On a eu M. Soumo qui a été à la Banque centrale, M. l'ancien gouverneur de la Banque centrale. On a eu des Matatapone qui sont des économistes, et de tous les barrages là, qui sont des économistes de fin. Il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui fait qu'avec la hauteur économique que nous avons au Congo du point de vue théorique, on n'arrive pas toujours à réussir? Il y a des problèmes de fond qui se posent. Et au niveau politique, il faut qu'on arrive à comprendre, lorsqu'on vous sert de la gestion de la chose publique, elle n'est pas là pour vous-même, il faut savoir bien la traiter. Donc, la réalité de l'Angola et des autres pays se résume à une seule chose hier, c'est la volonté de bien faire les choses.
Voilà, merci beaucoup Omar. Je crois qu'on va évoluer. Il y a un aspect qu'on nous a, disons, fait savoir en 2011-2012 que effectivement il fallait appliquer la TVA qui devait soutenir quand même notre économie. Question de pouvoir permettre une forte mobilisation des recettes ou de la l'assiette fiscale. Est-ce que Maître Sonville, vous pensez qu'aujourd'hui, si ces chocs exogènes, cette influence internationale a eu vraiment un impact très significatif qui a permis cette réduction, cette diminution de notre budget, c'est parce que, en fait, la TVA n'a pas soutenu l'économie congolaise. Maître Sonville.
D'abord, Monsieur Gilles, bonjour aussi à notre invité, bonjour à tous les millions d'auditeurs. Monsieur Gilles, moi je dirais que ça ce n'est pas fondé, ça ne peut pas avoir un impact très profond par rapport à notre budget. Tout ça, le budget congolais ne repose pas seulement sur les ressources minières. Le budget est extraverti. C'est-à-dire que notre budget doit reposer sur plusieurs ressources. Le Congo, on a toujours dit que la RDC a toujours été potentiellement très riche. Et d'ailleurs, on parlait aussi de la croissance macroéconomique. Où est passée cette croissance macroéconomique, M. Gilles?
Moi, je dirais que... La question aujourd'hui, est-ce que les budgets tels que présentés, avec quelques ajustements malgré la diminution, pour arriver à organiser les élections, et aussi, tant soit peu, améliorer les conditions de vie des citoyens, en affectant au moins à l'imputant, donc à peu près un milliard dans la rubrique. Donc, est-ce que vous pensez que, effectivement, on peut soutenir? Il y a quand même une responsabilité citoyenne pour que nous puissions nous approprier de ces budgets afin d'arriver à. Comme il y a déjà cette volonté de pouvoir baisser quand même la part allouée au niveau des institutions qui étaient à l'époque par rapport à certains rapports budgétivores, on a revu pour prioriser les élections et l'amélioration des conditions des vies des citoyens.
Monsieur Gilles, moi j'estime qu'on ne réussira absolument rien par rapport à cette réduction, quand de même il y a cette volonté citoyenne. Donc on avait un budget de 9 milliards, on n'a pas su prélever les 1 milliard 250 millions dans ce budget-là. Alors moi je me pose la question de savoir comment faire que dans un budget de 4 milliards, on peut parler du social de la population. Parce qu'avec les 9 milliards, on ne savait pas revoir à la hausse les soldes des militaires, les soldes des policiers, les salaires des magistrats, les salaires des fonctionnaires, même les agents de la gendarmerie, tout ça, ils sont toujours impayés. Et comment est-ce que, par quel bâton magique, que ce budget-là réduit à la baisse? aussi pour la des 4 milliards et demi, peut répondre à tous les besoins dont que s'est assigné le gouvernement. Moi, j'estime qu'on est en train de pousser dans le désert. La meilleure situation, le meilleur problème, la meilleure solution, c'est quoi? C'est d'améliorer la manière de gouverner. Parce qu'aussi longtemps que la gouvernance elle est opaque, la gouvernance, il n'y a pas de traçabilité dans cette gouvernance, il n'y aura absolument rien.
Merci.
Et je ne pas oublier, monsieur JR, il y a certains pays qui vivent des fiscaux, il y a certains pays qui vivent de recettes douanières, tout ça. Aussi longtemps que les régimes financiers ne sont pas très bien gérés, on peut s'attendre absolument à rien. On aura toujours à recourir à nos partenaires traditionnels, tels que la Banque mondiale, tels que la FMI, tout ça. Et c'est ça notre problème. Nous devons faire beaucoup d'efforts
voilà.
Pour parvenir à assouvir notre...
Merci beaucoup, M. Sonville. Alors, je crois que la question que je vous avais posée tout à l'heure, je la repose à l'auditeur qui nous a rejoint tout à l'heure, Muzard. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Muzard.
Oui, bonjour, moi.
Voilà, Muzard, la question, voilà, Muzard n'est plus en ligne. On va prendre Michel Somoué. C'est vrai, je posais tout à l'heure la question de la TVA qui était appliquée depuis 2012. On nous a laissé entendre que cette imposition fiscale pouvait quand même aider, de toute façon, ces droits de l'État pouvaient permettre à ce que notre économie soit soutenue et faire face. Peut-être par rapport à toute cette influence internationale au niveau économique. Et cela n'a pas été le cas, on dirait.
Mais si ma mémoire est très bonne, je crois qu'elle n'est pas encore atteinte du virus. J'ai fait une émission sur Radio Okapi pour aller avec vous à l'époque où on avait lancé la TVA. Je vous avais dit qu'on était en train de gaspiller une très bonne réforme. On allait la gaspiller purement et simplement parce qu'on l'a lancée dans une économie qui ne nous appartenait pas. Conséquence logique, nous avons la TVA et nous n'avons pas d'amélioration significative de notre train de vie au quotidien. Cela veut dire quoi, purement et simplement? Ça veut dire tout simplement. D'abord, il faut vous rappeler, JR, parce que vous parlez de la TVA, laissez-moi vous rappeler qu'en 2015, reddition des comptes pour l'initiative 2014, j'ai été estomaqué d'apprendre qu'il y a un montant de 1 milliard 400 millions de dollars qui avait été remboursé aux sociétés minières au titre de la TVA, remboursement TVA. Vous comprenez cela? Alors que la loi, le code minier, dit que les sociétés minières sont exemptées du paiement de la TVA pendant les 5 premières années. Alors comment, au nom de quoi on a remboursé les 1,4 milliard aux sociétés minières? C'est une question qui a échappé complètement à nos députés et que je relance, vous avez parlé de la TVA. En somme, la TVA chez nous ne nous a pas été, ce n'était pas le moment, ce n'est pas venu au bon moment. Le bon moment est que nous devons d'abord asseoir les fondamentaux de l'économie. Mais vous voyez que je suis plutôt envieux de répondre rapidement à Omar, parce que je crois qu'il n'a pas passé une très bonne nuit aujourd'hui. Je ne suis pas en train de préconiser l'autarcie, M. Omar. Je connais très bien que nous sommes aujourd'hui dans un monde d'interdépendance lié à la mondialisation, à la globalisation financière. Quand vous parlez du cas de l'Angleterre, je n'ignore pas, et j'ai mentionné d'entrée de jeu, la question sur l'intelligence économique, en disant bien précisément que ce n'est pas une injure. Aujourd'hui, toutes les nations adoptent parmi les politiques économiques une politique liée à ce qu'on appelle l'intelligence économique. Parce que les nations peuvent faire l'objet des attaques. L'activité économique est un champ de bataille, est un champ de guerre. On peut subir des sabotages des autres nations. La guerre économique dont a parlé tout à l'heure, je crois, M. Patrice Marébon, il a parlé de la guerre économique, signifie justement que quand vous allez dans la mondialisation, commencez par asseoir votre souveraineté et votre indépendance. Il se trouve que depuis 1960 jusqu'à ce jour, hier, je suis économiste, je lis l'histoire économique de mon pays. Depuis 1960 que nous sommes indépendants jusqu'à ce jour, jamais nous n'avons eu dans ce pays un budget qui a répondu aux attentes profondes, aux aspirations légitimes du peuple congolais. Jamais. Simplement parce que le budget, nous l'appliquons sur une économie dont nous n'assumons pas la propriété, le droit de propriété. Le budget est devenu chez nous comme un piège. Et cela dit, cela signifie simplement que le budget est le reflet de la nature même de notre État, je le dis. Parce que notre État est comme une réalité lui-même aussi facultative. C'est aussi ça le problème. Alors, on nous apporte des imputations forfaitaires, on les appelle budget, et ça passe. Et puis après, le même Parlement trouve dans le budget seulement une opportunité de se distribuer de gros salaires, quant à ce qui concerne la misère des autres, c'est pas un problème. Ça peut passer comme ça. C'est la difficulté que nous avons. J'insiste que nous devons bâtir une économie nationale. Bâtir une économie nationale en commençant par lancer une véritable classe moyenne qui part inévitablement, imparablement, inéluctablement de la restructuration de la Banque centrale du Congo, parce que la monnaie est la condition sine qua non pour l'existence d'une économie. Nous sommes au 21e siècle. Le point de départ, c'est celui-là. Quand on parle de dépression économique, de récession, tout part des questions monétaires.
Oui, Michel Sommoy, par respect des auditeurs, je peux quand même prendre et accorder la parole à Jean-Marie qui nous arrive rapidement en 30 secondes. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour, JRS. Merci de m'avoir dédié la parole.
Oui, en 30 secondes.
Je voulais parler premièrement que, vous savez, JR, et que le plus important chez l'homme, c'est l'histoire de sa vie après sa vie. De l'essentiel d'un homme, de pas ce qu'on a fait de lui, mais plutôt ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. C'est-à-dire quoi, JR? La valeur d'une personne réside toujours dans ce qu'elle donne, et non pas ce qu'elle est capable de recevoir. Essayez un peu de voir aujourd'hui, de près comme de l'autre, même le pays qui semble mieux développé aujourd'hui dans la vie, arrive aussi à ressentir le même cri de la détresse. Mais le plus grand problème, c'est que pour que les Congolais ici, ou le Congo puisse bien s'améliorer, il fallait que tout d'abord les dirigeants puissent changer leur mentalité. Je connais le cas, je prends à titre d'exemple,
on a pris assez de temps, le temps peut-être d'accorder juste pour une phrase dans l'UNIL, notre invité Michel Sommoy. Michel Sommoy, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement malgré les ajustements faits autour de ces budgets revus à la baisse pour améliorer la condition de vie des citoyens et aussi malgré la priorité accordée aujourd'hui aux élections, donc ces budgets, selon vous, est mal présenté. Voilà, dommage, on n'a plus Michel Sommoy en ligne, mais on lui dit merci d'avoir accepté notre invitation pour modérer et échanger de manière citoyenne avec les auditeurs, vous étiez nombreux, et donc à participer à ces débats sur notre page Facebook, également sur notre site, et aussi en direct ici au pays et à l'étranger. À vous tous, merci d'avoir fait confiance à Radio Capi, la fréquence de la paix, et particulièrement cette émission. Parole aux auditeurs, ces cadres d'échange citoyen. C'est par ici que nous mettons un terme à ces programmes. Nous n'oublions pas de dire merci à toute l'équipe de production qui a concouru à la réalisation de cette émission qui a été supervisée par Martin Sebujangi, Pierrot et la BGT à la réalisation et Jean-Claude Tiala à la mise en onde. Une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Lwabung Angie. Merci et à très bientôt.